Salut!
Vous écoutez Qui veut épouser le fisc, une série de podcasts réalisée par Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
On est toutes les deux étudiantes en master de journalisme à Sciences Po Rennes. Et pendant plusieurs mois, on s'est intéressées aux histoires d'amour et d'argent. Alors le fric dans le couple, tabou ou pas tabou? Et qui gère les comptes? Le mariage, c'est oui ou bien c'est non?
Qui veut épouser le fisc, c'est 6 épisodes sur l'organisation financière des amoureux, mais aussi des réflexions sur les inégalités de genre entretenues, voire aggravées par notre système d'impôts.
Fiscalisation des pensions alimentaires, caution conjugale, solidarité fiscale, bref, on va vous parler cash. Bonne écoute!
Être en couple, franchement, c'est compliqué.
Mais tu crois que tu vas te dédouaner avec tes yeux ronds là, que ça va faire la blague? Qu'on va se dire oh là là, le pauvre, avec sa bonne femme hystérique qui lui fait des scènes? Mais tu verrais ta gueule, Pierre.
Qu'est-ce que je te dis que je te surveille pas? Mais alors t'es où là?
Arrête, tu nous saoules avec tes chansons de merde, là on n'en peut plus là!
T'as pas entendu? Voilà, ça arrive!
Ça t'arrive jamais à te pas entendre?
T'as pas entendu?
Non, j'ai pas entendu!
T'as pas entendu!
Et bah si t'as pas entendu, c'est que je te l'ai dit, donc je l'ai dit!
Mais je vais pas savoir si tu l'as dit ou non, puisque je t'ai pas entendu! Ah, bah non.
Alors là, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre là.
C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin!
Mais même quand l'amour est au beau fixe, il peut y avoir des orages.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pries.
Dans l'idée, on s'aime parce qu'on se plaît, on se désire. On a choisi l'autre, puis le côté du lit, parfois pour la vie. Parce que non, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ok, c'est le moment de reparler fric. Les arrangements économiques dans le couple ne sont pas basés que sur l'argent et les biens. Ils intègrent des considérations de genre. Le couple n'échappe pas au rapport dominant-dominé. Au sens de Pierre Bourdieu, que ça soit clair.
Dans les sociétés occidentales, les femmes sont aujourd'hui indépendantes économiquement. L'égalité semble acquise. Pourtant, elles n'accumulent pas autant de richesses que les hommes. Le quotient conjugal augmente ces inégalités économiques. Ici, s'impose un petit rappel.
Previously, in Qui veut épouser le fisc, le quotient conjugal applique au couple marié et pacsé un taux d'imposition unique, basé sur l'ensemble de leurs revenus.
On pense à partir du foyer fiscal, donc une unité, sans prendre en considération les rapports de domination qui existent à l'intérieur du couple. Notamment l'écart de patrimoine entre hommes et femmes, qui est passé d'une moyenne de 7 000 euros en 1998 à plus de 24 000 euros en 2015. Mais pas seulement.
Donc avec Céline, on insiste en général sur 3 points. D'abord, le premier, c'est qu'il y a un enjeu à déconstruire la catégorie de ménage et de foyer fiscal, qui est une catégorie à la fois méthodologique et politique.
Sybille Golac, sociologue et co-autrice du genre du capital.
Mais c'est aussi un problème politique, puisque notamment dans le calcul de l'impôt sur le revenu, les gens qui sont mariés déclarent leurs impôts ensemble, et ça conduit à ce que, hein, on a vu, plus de 40% d'écart de revenus entre les femmes et les hommes. Hein, les femmes payent un taux d'imposition supérieur à ce qu'elles payeraient si elles étaient seules, alors que pour les hommes, c'est l'inverse.
Dans cet épisode de Qui veut épouser le fisc, on va revenir sur les problèmes que pose le quotient conjugal. Déjà pour vérifier que vous avez bien suivi, mais surtout pour vous parler réforme. Bon, dit comme ça, ça sonne un peu comme une promesse de campagne. Ça fait pas rêver, et puis on arrive après la bataille. Quoique, vous verrez.
Si vous n'avez qu'un mot à retenir de ce qui va suivre, c'est individualisation. Individualiser l'impôt, ça veut dire supprimer le quotient conjugal et la déclaration commune. À l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE, des économistes se sont posé la question des conséquences concrètes qu'elle aurait sur nos vies. C'est un peu de la fiscale fiction, quoi. Bon, le terme technique, c'est micro-simulation, et c'est Guillaume Allègre qui nous l'a donné.
Et on voit combien ça coûte, combien ça rapporte, qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Et on trouve que, finalement, l'individualisation, ça pourrait avoir comme recette jusqu'à 10 milliards, alors 7 à 10 milliards selon les règles de l'individualisation. Et cette somme pourrait être utilisée soit pour réduire l'impôt sur revenu de tous, donc en réduisant les taux, soit pour faire d'autres choses, des crèches, une allocation familiale dès le premier enfant, ou un abattement. On peut aussi, on l'a pas évalué, mais on peut aussi mettre un abattement pour conjoint inactif, par exemple.
10 milliards d'euros, c'est ce que coûtent 50 tickets pour aller sur la Lune. Si le gouvernement ne projette pas de s'envoler dans l'espace, il peut trouver d'autres idées, plus terre à terre. Comme créer plus de 160 000 crèches, par exemple. Cela aiderait les 50% de Français en congé parental qui auraient préféré continuer à travailler plutôt que de garder leurs enfants.
L'impôt sur le revenu est la deuxième recette fiscale de l'État, avec 77 milliards d'euros. Contrairement à la TVA, il n'est payé que par moins de 45% des Français. On pourrait donc penser qu'il épargne les plus modestes. Et vous nous voyez venir, c'est pas le cas.
Ce que montre l'étude et ce qu'on sait, c'est que c'est une forme régressive, finalement, de prise en compte de la présence d'un conjoint, en fait. Parce que les gains de ce quotient conjugal, finalement, sont très concentrés chez les plus aisés. Aussi parce que l'impôt sur revenu est très concentré sur les plus riches. Mais il y a d'autres façons de faire.
Des façons de faire autrement, les économistes de l'OFCE en ont imaginé trois. La première, on l'a vu, c'est de supprimer le quotient conjugal. Radical, mais efficace. Ça, c'est l'individualisation, qui conduirait au gain fiscal le plus élevé.
La seconde réforme possible serait de plafonner le quotient conjugal. L'objectif, c'est de limiter les gains pour les ménages très aisés, un peu à la Robin des Bois. En effet, quand il existe, cet avantage croît avec le revenu. L'idée, c'est de le plafonner à 3000 euros. Actuellement, il peut aller jusqu'à plus de 32 000 euros par an pour les couples monoactifs ayant un revenu très élevé, au-delà de 70 SMIC. Oui, oui, ça existe.
Dans toute logique, ça devrait être plafonné, oui. Même les plus familialistes, même le patriarcat incarné, et les économistes qui défendent bec et ongle le système de quotient familial, quotient conjugal, disent que oui, peut-être que finalement, ça devrait être plafonné. Ça rapporterait à l'État 3 milliards d'euros. Donc, c'est pas du tout marginal.
Pas marginal en termes de gains, mais en termes de couples impactés. Un plafonnement ne toucherait que 5 à 10% des plus aisés, donc on n'est pas sur une refonte profonde du système fiscal. Alors, quel est le souci ?
Et la question peut-être de classe l'emporte sur la question de genre, exactement, ou familialiste.
C'est vrai qu'au final, ça peut desservir les hommes du coup, qui sont gagnants en ce moment du quotient conjugal quand il y a des écarts de salaire, mais aussi du coup, les familles les plus aisées.
Et voilà, exactement. Ah oui, bah oui, l'individualisation, ça serait défavorable à l'homme blanc âgé de plus de 50 ans. Donc voilà, peut-être que c'est une raison pour laquelle ça n'a pas été fait.
Dernière réforme, c'est un quotient conjugal différent. Relooké quoi. Un quotient conjugal 2.0. Très exactement, l'idée est celle d'un quotient conjugal à une part et demie. Actuellement, le fait d'être marié ou paxé donne droit à deux parts fiscales, contre une pour les personnes seules. L'OFCE propose de limiter cet avantage lié au statut marital. Les deux parts seraient réduites à une et demie, toujours avec possibilité pour les conjoints d'individualiser leur taux.
Alors bien sûr, on ne peut pas supprimer purement et simplement le quotient conjugal. Certes, 15% des plus aisés reçoivent 40% de ces gains, mais 10% des plus modestes y gagnent aussi. Là encore, cela concerne les couples à forte inégalité de revenus. L'objectif est donc de ne pas faire de nouveaux perdants du côté des plus en difficulté. Oxfam refuse par exemple que les personnes qui touchent moins de 2500 euros net perdent à cette réforme.
Vous suivez toujours ? Ne vous inquiétez pas, pour nous aussi, ça n'a pas toujours été facile de nous y retrouver.
Celle qui date de l'après-guerre, du coup.
Non, ça date du prélèvement à la source, oui. Non. Donc ça date d'il y a vraiment pas très très longtemps. Ouais.
L'écrasante majorité des pays dits développés propose un système d'individualisation. Oh, je vais jamais y arriver.
54 000 divisé par 2, on applique le premier taux 0% sur 10 084 euros, on applique le deuxième taux 11% entre 10 000 et 25 700, et on applique le dernier taux de 30% sur ce qui est compris entre 25 710 et 27 000 euros. Et après, on remultiplie ce montant-là par 2.
Mais au-delà de l'économie pure, ce qui nous a intéressé, c'est les difficultés à réformer le quotient conjugal en France. Une majorité de pays utilisent pourtant l'individu comme unité d'imposition. La Suède, par exemple, est passée à l'individualisation en 1971. Alors, qu'attend la France ?
Les Français vont...
Oui, mais les Français, ils aiment la nouveauté, mais pas le changement, je les connais, donc je m'en occupe, moi.
Pour comprendre cette spécificité française, on est allé à la rencontre d'Hugues Biécharton, le directeur des finances publiques de Bretagne. Comme on n'a pas été autorisé à l'enregistrer directement, on a fait lire ses propos.
C'est une tradition française, il y a un attachement des Français au quotient conjugal. La majorité le plébiscite, après on en connaît les limites. Beaucoup de pays ne fonctionnent pas comme ça, mais ils utilisent des crédits d'impôt ou des abattements pour les couples qui reproduisent un peu le système d'imposition jointe. La difficulté, c'est que supprimer le quotient conjugal se traduirait par une augmentation d'impôts de 8 milliards d'euros. Politiquement, il faut l'assumer. Après, nous, en tant que fonctionnaires, les questions morales et politiques nous dépassent.
On y est. En France, toucher à l'institution familiale est souvent perçue comme amorale, même quand elle entre en contradiction avec l'égalité femme-homme. On l'a encore vu dans les débats autour de l'individualisation de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Le principe, c'est qu'une personne handicapée dans l'impossibilité de travailler peut toucher une allocation. Ce revenu est conditionné à plusieurs critères, notamment au salaire que touche le ou la conjointe. Là, pour le coup, pas besoin d'être marié ou paxé pour se voir refuser l'allocation. Tous les couples, dont l'un gagne plus de 2200 euros, peuvent être concernés. Les députés sont bien entendu conscients du problème de dépendance financière lié à la conjugalisation de l'AAH. Pourtant, au Parlement, il a clairement été exprimé qu'il serait dangereux de revenir sur les modèles familiaux.
Pareil pour le revenu de solidarité active. Au RSA, une personne seule touche 575 euros. Par contre, un couple ne touchera qu'un RSA et demi, soit 862 euros. Ce calcul s'applique dès qu'il y a vie commune, donc pas seulement pour les mariés et paxés. Donc 1. Les politiques publiques françaises sont familialistes. Et 2. La conception de ce qu'est une famille change selon les mesures.
Le quotient conjugal fait partie des avantages donnés aux couples mariés ou paxés, un peu comme les alliances. Guillaume Allègre, économiste à l'OFCE, y voit une sorte d'incitation à adopter le modèle de mise en couple traditionnel.
Voilà, je vais me faire le défenseur de la familialisation. L'idée, c'est de dire que le mariage, le PACS, donne une protection aux conjoints qui n'existe pas pour les conjoints en union libre. Notamment, il y a les pensions de réversion, il y a les prestations compensatoires et aussi les droits de succession. Donc, c'est en fait, le mariage, c'est quand même, reste une protection pour les conjoints en termes à la fois de mort. Donc, les droits de succession ne sont pas du tout les mêmes. Donc, les conjoints ne payent plus de droits de succession depuis une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment les gros risques hein, que l'on peut avoir. Et donc, et sur ces très gros risques, il n'y a pas du tout les mêmes règles pour les couples en union libre que pour les paxés, que pour les personnes mariées. C'est une continuité. Après, on peut se poser la question de savoir s'il faut revenir là-dessus. La question, elle est légitime.
Dans les programmes électoraux aussi, on parle déconjugalisation de l'impôt. Candidat à l'élection présidentielle 2022, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon l'avaient proposé, qualifiant le système actuel de patriarcal. Tout l'inverse du candidat Emmanuel Macron, récemment réélu président de la République.
C'est dans l'actualité. Donc, il y a Emmanuel Macron qui souhaiterait étendre la conjugalisation aux couples en concubinage. On estime que c'est pas du tout une bonne solution.
Quentin Parinello, responsable de la justice fiscale chez Oxfam, n'est pas fan de l'idée. Et c'est le moins que l'on puisse dire.
Pourquoi ? Parce que ça va étendre une situation de dépendance et de spécialisation des tâches au sein d'un couple, de couple de fait, même si c'est pas des couples de droit. Et donc ça va continuer à exacerber les inégalités entre les femmes et les hommes. Et c'est assez drôle parce que, enfin drôle, dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source, il y avait un premier pas qui avait été fait vers la déconjugalisation avec l'individualisation. Ça réglait pas du tout tous les problèmes. Mais on voyait déjà qu'il y avait une volonté de dire « Ok, prenons les impositions une par une ». Et là, ce qui se passe, c'est populiste la démarche d'Emmanuel Macron. C'est simplement de dire « On va offrir une nouvelle manière de baisser les impôts à des couples ». Mais pourquoi simplement à des couples? C'est quoi, encore une fois, le présupposé idéologique derrière? Le présupposé idéologique derrière, c'est de dire que lorsqu'on est en couple, il y a une personne qui gagne moins bien sa vie, très généralement c'est une femme, et donc que c'est un poids pour les hommes, et donc qu'on va leur offrir une baisse d'impôts. Donc c'est une réflexion totalement sexiste. Mmh. Et c'est faire perdre de l'argent à l'État, par ailleurs pour une mesure qui va exacerber les inégalités entre les femmes et les hommes.
Bref, la révolution fiscale n'est pas en marche. Pour Hugues Biécharton, directeur des finances publiques de Bretagne, la difficulté est plutôt d'ordre technique.
Si la loi est votée, nous, administration fiscale, on l'appliquera sans souci. Mais il faudra qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'abus sur la notion de foyer fiscal. Pour les mariages, les PACS, vous avez une présomption de vie commune. Pour le concubinage, il n'y a plus cette présomption. Donc on ira certainement embêter un certain nombre de gens qui vivent en concubinage, a posteriori, pour vérifier qu'ils vivent bien ensemble sous le même toit. On fera forcément l'intrusion dans leur vie de couple. Je ne sais pas comment ce sera perçu par nos concitoyens.
Imagine, le fisc chez toi. Pas fun. D'autant que l'obligation de déclaration jointe pour les concubins coûterait plus de 500 millions d'euros. Dans leurs travaux, Guillaume Allègre et ses consoeurs n'avaient pas retenu ce scénario. Leur argument, c'est, je cite, « Il étend le problème de la désincitation au travail des femmes à celles qui vivent en union libre. »
Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton bien.
On l'a vu, la conjugalisation du quotient conjugal bénéficie davantage aux couples aisés et monoactifs. Donc ça prendrait fin avec l'individualisation du quotient, mais politiquement, c'est un choix dur à imposer, sans mauvais jeu de mots. D'après les simulations de l'OFCE, 46% des Français verraient leur impôt augmenter. Mais on peut aussi imaginer une baisse des taux pour compenser la suppression du quotient conjugal.
En fait, la vraie question, en creux, c'est celle de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on veut qu'il soit plus distributif ou pas ? À la base, la conjugalisation était un moyen de compenser une situation d'inégalité, à une époque où seul l'homme avait un salaire. Ça n'est pas supposé être un cadeau fiscal.
Aujourd'hui, la conjugalisation semble désuète et crée au contraire de nouvelles inégalités. Elle doit donc être réformée.
Dans le prochain épisode,
Inde perdue, 10 êtres retrouvés,
on donnera davantage la parole aux femmes. On verra avec elles comment les divorces et séparations peuvent révéler les inégalités économiques dans le couple, souvent trop tard.
Restez connectés et à bientôt. Merci à Nicolas Dumont et à Melrine Adzeni qui ont prêté leur voix à cet épisode.
Dans cet épisode, vous avez peut-être reconnu des extraits du Prénom, de Fais pas ci, fais pas ça, les voix de Florence Foresti, Inès Reg, Pierre Palmade et Michel Larocque, ainsi que la chanson Brand Rhapsody, interprétée par Jeanne Chéral et Benjamin Biolay.
Mais aussi Les Vieux Amants de Jacques Brel, un sketch du Palma Show, Cache ton piano des Charlots, Famille de Jean-Jacques Goldman et Thier la famille de Bingus. Oui, on s'est lâché sur cet épisode. Vous venez d'écouter Qui veut épouser le fisc, une idée originale de Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
La pochette a été imaginée par Marion Lechêne et c'est Liam Lenormand qui a créé la musique. Les interviews ont été menées à deux, Camille s'est chargée de l'écriture
et Perrine du montage. Merci de nous avoir écoutés.